Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Dans la famille Église, je voudrais les saints, non pas ceux qui ont leur statut dans les églises, fondateurs d'ordres monastiques, papes ou martyrs, mais ceux qui sont invisibles. Qui sont-ils ? Les saints minuscules, ce sont ces gens simples qui portent l'Église, comme les définit mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Bénédicte de Saint-Germain.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes l'auteur de ce lumineux ouvrage paru aux éditions du Cerf, le Club des saints minuscules, livre pour lequel vous avez reçu le 41e prix de littérature religieuse. Donc bravo déjà pour cette distinction. Dans ce livre, vous y dressez le portrait de 30 personnages de tous âges qui rendent service, chacun selon leur charisme, qui prient et qui portent souvent un fardeau. Pourquoi avoir voulu tourner le projecteur vers ces gens simples ?
Eh bien parce que ce sont des personnes qu'on ne voit jamais. Est-ce que vous avez pensé, Isabelle, à qui pouvait, dans votre paroisse, qui pouvait bien passer le balai chaque semaine, qui pouvait bien changer l'eau des fleurs chaque semaine également, qui pouvait bien préparer chaque messe du matin à 7h du matin, qui pouvait bien ramasser les pétales de roses lancés sur des mariés à la sortie de l'église. Et est-ce que vous avez pensé aussi, dans un autre registre, à... qui pouvait intercéder aussi, sans rien dire, pour des personnes comme nous, qui sont dans la vie de tous les jours, et qui, en offrant ces maux, ces maladies, etc. Est-ce que vous y avez pensé ? Ben, pas forcément. Toutes ces personnes qui font des choses tout à fait invisibles, qui tissent des liens par la prière, qui offrent leur souffrance, eh bien, toutes ces personnes, c'est ce que nous avons appelé les saints minuscules.
Alors, vous avez appelé ces saints minuscules, et on devine que leur point commun, c'est cette invisibilité, hein, cette discrétion. Est-ce qu'ils ont d'autres points communs ?
Alors, je pense pas qu'on pourrait dire qu'ils ont des points communs, parce qu'ils sont tous très différents, et c'est ce que je trouve beau dans l'Église, c'est que nous sommes chacun personnellement appelés à une sainteté unique. Le Seigneur a vraiment pour nous un projet particulier qui n'est pas celui du voisin, qui n'est pas celui de la personne qui pourtant a l'air d'être 10 fois mieux que moi. Cette sainteté, elle est unique, elle n'est pas partageable. Et c'est pour ça que ce point commun, en fait, je dirais que c'est qu'il n'y a pas de point commun.
Ça, c'est intéressant. On peut dire quand même que ce sont des personnes qui sont fidèles, fidèles dans leur service. Hein, vous parliez de la personne qui prépare l'église avant la célébration de la messe, la personne qui fait les bouquets, etc. Et puis la personne qui prie, on devine quand même une certaine fidélité et une certaine générosité quand même dans leur engagement.
Oui, bien entendu. Fidélité parce que qui est d'autant plus méritoire que personne ne voit ce que vous faites, que en général vous êtes peu remercié. Je pense à ce sacristain Laurent qui a son portrait dans le livre et qui prépare toute son église pour un mariage, une église qui est habituellement fermée et que personne ne remercie en partant. Bon, ni les mariés, ni la famille du marié, ni les invités. Bon. Et donc cette fidélité, en fait, c'est cette espèce de constance dans le don de soi, dans le service accompli. Et d'ailleurs, je parlais des remerciements par les invités, mais les curés, parfois, ils sont aussi un peu, ils ont un peu des œillères et ils ont l'impression que tout se fait tout seul. Alors que il faut se lever tôt, traverser la ville endormie, aller préparer l'église, et puis après la messe, tout ranger. Et le curé, parfois, bah, il arrive, il est aussi endormi que vous, et il célèbre la messe, et puis il s'en va sans vous avoir accordé un regard. Ou alors, peut-être qu'il vous a même... un peu houspillé parce que quelque chose n'était pas bien à sa place comme il voulait. Donc, fidélité méritoire, oui, c'est ça, ce qui pourrait caractériser ces saints minuscules. Et puis, pour ceux qui sont dans l'offrande, dans leur souffrance, parce qu'il y a quelques portraits dans le livre qui montrent aussi qu'il y a une sainteté dans cette souffrance accueillie, déjà vécue,
déjà
avant de l'offrir
à qui, part voilà. du chemin.
eh bien, cette fidélité, elle est méritoire aussi parce qu'elle ne se, elle se voit pas.
Alors, vous avez commencé, Bénédicte de Saint-Germain, à nous raconter une histoire, celle de Laurent, le sacristain. Et on va essayer de prendre quelques-unes de ces histoires de votre livre, Le Club des Saints Minuscules. Par exemple, celui qui rend service. Donc, il y en a beaucoup dans nos paroisses, vous nous avez dit. Vous nous avez parlé de Laurent. Est-ce que vous voudriez nous dresser le portrait d'une autre personne qui vous a particulièrement marqué dans ce service pour l'Église ?
Oui, alors évidemment, j'aime beaucoup le portrait d'Edmond, qui est un vieux monsieur qui doit avoir 85 ans. Et ce vieux monsieur, en fait, il s'est, au fur et à mesure que son audition diminuait, il s'est pris de passion pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et l'adoration, le problème de l'adoration quand on veut monter une adoration perpétuelle dans sa paroisse, c'est qu'il faut trouver des adorateurs la nuit. Et cet Edmond, ça ne le dérange pas de se lever, réveiller la nuit, de se lever, d'aller adorer le Seigneur et de rentrer chez lui. Il a un très bon sommeil, il se rendort. Bon. Et donc, sa mission, avouons que c'est lui qui se l'est octroyé, c'est de remplacer les absents. Et donc, une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, il se lève la nuit et de son petit pas assez lent, il va à la chapelle du Saint-Sacrement et là, il adore. Et quand on lui dit, qu'est-ce que tu lui dis au Seigneur ? Tu t'ennuies pas ? Tu t'endors pas ? Réponse, non, je suis là, il est là et nous sommes bien ensemble. Alors ça, c'est un bel exemple de ce service rendu, accompli et qui permet de maintenir cette chaîne d'adorateurs ininterrompue. Alors évidemment, on ne le fait pas pour avoir cette performance et dire « Ouais, ma paroisse, on arrive à avoir cette adoration, etc. Mais, » mais c'est vraiment pour que le fil de la prière
soit continué.
Et ce qui est très beau dans la prière de nuit, c'est cette prière aussi d'intercession pour ceux qui ne dorment pas, ceux qui travaillent, ceux qui souffrent, ceux qui ont des insomnies, ceux qui se réveillent, ceux qui pensent à leurs enfants, à leurs parents, etc. Et maintenir cette chaîne de prière, en fait, ça a beaucoup de sens. C'est tout à fait invisible. Personne ne va remercier chaque nuit Edmond de s'être levé.
Oui, parce que là, pour le coup, ça ne se voit pas.
Ah non, alors là, oui, tout à fait.
Il n'y a pas de témoin.
Oui, il n'y a que Dieu qui le voit. Mmh. Voilà, exactement. Mmh. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un très bel exemple de service fidèle, accompli,
Ouais, et dans la discrétion. Alors, on va prendre un autre portrait, celui d'une personne qui a traversé ou qui traverse encore une épreuve, comme la maladie, le deuil, l'abandon. Et vous disiez au début de cette émission, Bénédicte de Saint-Germain, que c'était ces personnes aussi qui acceptaient d'abord dans un premier temps cette maladie ou cette épreuve et puis qui après arrivaient à l'offrir. De quelle personne en particulier vous voudriez nous parler dans ce club des saints minuscules ?
Oui, alors quand je parle d'offrande, en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, enfin, qui arrive un peu comme un cadeau, mais qu'on n'arrive pas à faire par ses propres forces. Et donc l'histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est celle de Sylvie, qui a perdu ses deux unique filles, dans les attentats du Bataclan. Et Sylvie, en fait, elle aurait pu s'écrouler. Alors, elle est évidemment passée par des phases de révolte, de colère, de mou, si on peut dire. Et il y a encore des jours où c'est très difficile.
Et il y a de quoi, on comprend.
Hein. Oui, tout à fait. Oui, et en fait, elle a compris que sa planche de salut, mais vraiment sa planche, vous savez, comme la bouée de secours qu'on donne à quelqu'un qui se noie, c'est la présence du Seigneur. C'est pas une idée, c'est une présence. La présence du Seigneur et de Marie. Et la vie de Sylvie et de son mari, Eric, c'est vraiment d'être accroché toute la journée, mais la journée, elle se divise en demi-journée, et puis en instants, et quelquefois, c'est instant par instant qu'il faut agripper la main de Marie et la main du bon Dieu.
Pour tenir dans l'épreuve.
Pour tenir, et pour comprendre que dans l'obscurité qu'il traverse, parce qu'une épreuve pareille, c'est la nuit qui s'abat sur votre famille, dans cette obscurité, il y a une lumière. Vous voyez, c'est comme les cierges qu'on met dans une église. Ils ne chassent pas la nuit. mais ils apportent la lumière dans la nuit. Et donc, Sylvie et Eric, leur sainteté minuscule, ordinaire, que personne ne voit, c'est de, instant par instant, se raccrocher à Jésus et à Marie.
Et se raccrocher justement à Jésus et à Marie, ça leur permet de tenir, ça leur permet de faire confiance finalement à Dieu ?
Oui, de faire confiance, et puis ça redonne une joie dans leur vie. On pourrait dire, mais vous ne pouvez pas oser affirmer que vous êtes joyeux. Et pourtant, si, il y a cette joie qui est un don de Dieu. La joie et la paix qui sont un don de Dieu. Joie et paix, à mon avis, c'est la même chose. Voilà.
Et de fait, Eric et Sylvie que vous avez rencontrés, donc qui avaient perdu leurs deux filles dans les attentats du Bataclan, vous pouvez témoigner qu'ils ont cette joie et cette paix.
Oui, tout à fait.
Surnaturel,
oui,
finalement.
Tout à fait, oui, une joie. Alors attention, ça, non, c'est ça qui est beau dans la sainteté, ça ne gomme pas
nos
caractéristiques. Oui, nos limites, nos caractères, nos tempéraments. Dieu se sert de tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a, par exemple, un tempérament colérique qu'on n'est pas saint. Enfin, on essaye bien sûr de faire en sorte que sa colère n'explose pas contre le voisin. Mais je pense notamment particulièrement à Eric, qui était particulièrement en colère contre le gouvernement, qui n'a pas su mettre en place des systèmes de sécurité suffisamment forts pour éviter que ses filles soient assassinées. Mais... c'est avec nos défauts, nos fractures, nos limites, comme vous dites, en fait, on peut quand même laisser passer la lumière.
Et puis, dans ces 30, parmi ces 30 portraits que vous dressez, il y a ceux qui prient. Alors, on l'a bien compris, hein, la prière n'est pas réservée. Il n'y a pas une catégorie de ceux qui prient, une catégorie de ceux qui agissent et une catégorie de ceux qui souffrent. Hein. Souvent, évidemment, tout ça est mêlé. Mais en tout cas, dans la prière, on l'a vu avec ce personnage d'Edmond, c'est vraiment cette fidélité discrète que vous voulez souligner.
Tout à fait, oui. Fidélité discrète parce que personne le voit, personne ne va vous remercier. Et dans la prière, vous n'allez pas avoir des lévitations tous les jours. Hein. La prière, c'est un combat. Alors, j'aime pas trop le mot combat parce que, évidemment, puisqu'il s'agit d'une relation d'amour, c'est pas un combat, mais c'est vraiment une décision d'être là. De se mettre en présence du Seigneur. Et cette décision, elle est quand même pas tous les jours facile.
Oui, elle peut coûter.
Et on ne sent pas toujours, on n'entend pas toujours le Seigneur nous parler. Quelquefois, on accepte, on reçoit la parole de Dieu, la parole du jour. Quelquefois, ça ne nous dit strictement rien. On a beau invoquer l'Esprit Saint, tous les saints, etc. Bon, ça nous dit strictement
rien. On sent que c'est
rien.
Du vécu, ça, quand même. Hein.
Oui. Et donc cette prière, voilà, c'est un acte de fidélité, mais qui est beau et qui permet, voilà, de garder ce lien au Seigneur et de garder un sens à sa vie malgré tout ce qu'on traverse.
Vous avez ce portrait touchant dans votre livre du Club des Saints Minuscules, de cette femme qui prend les intentions de prière que les gens laissent au fond de l'église et qui les porte elle-même.
Alors ça m'a beaucoup touchée parce que cette femme, je l'ai connue, j'ai rencontré et elle avait vraiment pris à cœur cette mission parce qu'elle disait, mais en fait ses intentions de prière, qu'est-ce qu'elles deviennent ? C'est pas tout de mettre un beau cahier à l'entrée de l'église et dont on voit qu'il est archi nécessaire, tellement le nombre de personnes est hallucinant, qui laissent qui une prière, qui une demande de prière, qui une action de grâce. Enfin, c'est souvent des appels au secours, hein, oui. Quand même. Bon. Et cette femme, elle s'était aperçue que voilà, ses intentions restaient lettre morte. Et donc, elle en avait parlé à un curé il y a des dizaines d'années, qui lui avait dit, vous n'avez qu'à prier pour ça. Hein. Et donc, chaque mercredi, elle dépose toutes ses intentions au pied de l'autel. Alors, quelquefois, c'est des bouts de papier. Donc, elle fait elle dispose un tissu, elle met le cahier au pied de l'autel, elle met des bougies, et puis elle passe son après-midi en prière. Et puis, quelquefois, elle dit aux autres, pourriez pas venir m'aider, là, parce que... C'est un peu lourd. C'est long. Hein. Bon, voilà, c'est long, c'est lourd. Et son curé ne sait même plus comment elle s'appelle. Tellement son.
C'est elle discret. Fait partie des murs.
Oui, et puis l'après-midi, personne ne passe dans l'église. Enfin, le curé, en tout cas, n'y est pas. Et donc, elle a cette mission discrète d'intercession. Et si elle n'était pas là, mais qui le ferait? Alors, bien sûr que le Seigneur. Il voit la démarche de la personne qui ne sait pas comment prier, puis qui du coup a mis un mot. Il voit la démarche de la personne qui met un cierge, qui n'a pas les mots, mais qui représente l'élan de son cœur ou de sa détresse par ce cierge.
Et de sa confiance aussi.
Voilà, le Seigneur va le voir. Mais c'est encore plus beau, et le Seigneur le permet, qu'il ait besoin de nous pour lui présenter les prières, les demandes de nos frères et sœurs.
Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre que tous ces saints minuscules sont les piliers de l'Église, des soutiens silencieux du royaume.
Ah ouais, moi j'en suis persuadée. Et je suis persuadée que quand on arrivera au ciel, on aura des sacrées surprises. On s'apercevra que la voisine, là, qu'on croise de temps en temps, en fait, elle a prié pour nous. Quand, par exemple, on a perdu notre père ou notre mère ou notre enfant, on s'apercevra que ce curé qu'on trouvait vraiment super ennuyeux et qui nous faisait dormir pendant toutes ses homélies et dont on trouvait qu'il n'avait aucun charisme, et ben en fait, il offrait peut-être son manque de charisme et de comment on dirait de célébrité entre guillemets. Il l'offrait et par son offrande, ben, il a obtenu des grâces sur tel ou tel paroissien. Et on va vraiment, non mais on aura des sacrées surprises au ciel.
Hein. Ouais, des sacrées surprises. Dans votre livre, Le Club des Saints Minuscules, on l'a dit, hein, il y a donc ceux qui servent, ceux qui prient et les blessés de la vie, même si effectivement vous nous avez expliqué que ces catégories s'interprennent nettes. Pour quelles raisons, à votre avis, ces gens simples restent-ils fidèles malgré la difficulté?
Alors, on pourrait dire qu'ils restent fidèles parce qu'ils sont persuadés que c'est leur manière d'aimer le Seigneur. Ça serait dans l'idéal. Il arrive quand même que certains se croient propriétaires de leur charge. Et je pense à une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Et elle est bénévole dans un sanctuaire. Et sa partie, c'est de balayer l'escalier de telle partie à telle partie et de nettoyer l'entrée du sanctuaire. Voilà. Tous les matins, elle arrive, elle fait ça. Bon, mais si vous lui disiez demain, je vais changer de prénom pour pas qu'elle se reconnaisse, demain, Simone, je te demande de ne plus balayer cette partie et peut-être d'arroser les fleurs. Mais peut-être que Simone, elle serait révoltée, elle rendrait son tablier, elle claquerait la porte et elle dirait « j'arrête », parce que ça, c'était mon domaine. Vous voyez, c'est un peu le problème aussi de ces bénévoles qui sont super, mais qui se croient propriétaires de leur charge. Je pense aussi à un autre exemple, mais je le dis avec beaucoup d'affection et d'amitié, parce que
parce qu'ils ont le mérite d'être là, en tout cas.
Oui, c'est ça. Je ne serais pas capable de le faire, mais ça peut être un défaut. Vous voyez, on est tellement... propriétaire, on sait comment il faut faire. Vous voyez, je suis dans l'équipe funérailles et bon, donc je sais. Et moi, voilà, ça fait des années que je fais ça. Donc le jeune curé là qui veut célébrer les obsèques et qui veut pas prendre les chants que moi j'ai choisi ou que la famille a choisi, bon bah écoute, non, là c'est non. Et s'il est pas d'accord, je claque la porte et je m'en irai. Voilà. Donc ça peut être aussi un défaut. Donc, vous voyez, on peut faire ça par amour de Dieu et parce que nos gestes, nos actes lui montrent qu'on lui est attaché. Mais quelquefois, ça peut être un peu mélangé de cette espèce de propriété et de ce refus d'obéissance. Vous voyez ?
Voilà. Oui. Et ça nous dit justement que ces saints minuscules, comme tous les saints et les grands saints, ils ne sont pas parfaits. Ils ont leur zone d'ombre. Et ça peut aussi rassurer.
Oui, mais bien sûr. Vous voyez, moi, je pense toujours à cet Edmond-là. Il n'a pas voulu que je le mette dans le livre, mais je le raconte quand même. De toute façon, il n'écoutera pas. Un nouveau curé. Alors, donc, le curé précédent arrive, met en place l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Nouveau curé, qui, lui, ce n'est pas sa priorité. Il en a d'autres, des priorités pastorales tout à fait légitimes. On va toucher les jeunes, on va faire autre chose, etc. Bien, on va développer la préparation au baptême, etc. Donc franchement, l'adoration perpétuelle, tant mieux, continuez si vous voulez, mais enfin, moi, curé, je ne vais pas m'y engager. Et donc, quand Edmond lui demande de faire de la pub pour trouver des nouveaux adorateurs, le curé, il fait la sourde oreille et il ne le fait pas. Et alors là, Edmond, révolté, quoi, il ne comprend pas. Ouais. Pour lui, c'est super
essentiel.
Important. Voilà. Donc, il va voir le curé et il argumente pendant une heure, etc. Le curé dit, mais je vous comprends très bien, mais ce n'est pas ma priorité. Et du coup, Edmond, bah, il a du mal à lâcher et à accepter que d'abord c'est le curé qui est le patron,
oui.
Et que même si sa mission, même si l'adoration perpétuelle c'est magnifique, il n'en est pas, c'est pas à lui de décider quoi. Mmh. C'est pas simple.
Ça demande une sacrée humilité quand même.
Voilà. Mmh. Et donc cette espèce d'obéissance, mais vraiment l'obéissance, c'est une manière aussi d'obéir au bon Dieu à travers ses représentants.
Bon, ouais.
Donc, c'est pas facile aussi.
C'est pas facile aussi. Je vous propose, Bénédicte de Saint-Germain, de marquer une pause. Nous écoutons la Litanie des Saints, un extrait composé par la communauté du Chemin Neuf. Et nous nous retrouvons à propos de votre livre, Le Club des Saints minuscules, aux éditions du Cerf.
Précurseur. Seigneur.
Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans notre émission avec Bénédicte de Saint-Germain, autrice du Club des Saints minuscules aux éditions du Cerf. Vous avez dressé dans la première partie de cette émission le portrait de ces saints minuscules, ces gens simples qui servent, qui prient, qui souffrent. Ils sont, comme vous l'avez dit, les piliers de l'Église, hein, les soutiens silencieux du royaume, comme vous vouliez à l'origine intituler votre livre. J'aimerais bien que on poursuive avant de voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de la sainteté pour tous, que vous nous dressiez ce petit portrait de Zoé, parce que Zoé, qui est dans votre livre, nous l'avons connue parce qu'elle a été stagiaire à Radio Présence. Donc c'est un petit clin d'œil qu'on se permet aujourd'hui. Zoé, elle a été baptisée adulte et, en tant qu'étudiante. Et pourquoi vous la mettez dans le club des 5 minuscules ?
Alors, comme vous le dites Isabelle, Zoé, qui a été stagiaire ici et qui était aujourd'hui étudiante en journalisme, a découvert le Seigneur complètement par hasard en faisant une visite de la paroisse étudiante de Toulouse. Je ne sais plus quelle est cette paroisse. Oui. Et donc, elle a dû demander la permission au curé de faire cette visite. À ce moment-là, Zoé faisait des études d'histoire de l'art. Et le curé l'a reçue et puis lui a dit, tiens, viens donc au barbecue des étudiants. Et petit à petit, Zoé a commencé à fréquenter les chrétiens. Et ce sont les chrétiens qui lui ont permis, c'est très beau, de changer son regard sur elle, déjà. Et alors, je passe les détails, mais donc elle a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle s'est vraiment lavée de sa vieille peau, de ses vieux oripeaux. Et elle a vraiment changé de vie. D'ailleurs, c'est beau ce que vous faites à Toulouse, parce que le baptême, c'est par immersion. Oui. Et donc, Zoé m'a montré des photos. Donc, elle est habillée tout en noir et elle plonge dans l'eau. Ouais. Et puis après, elle ressort et on la vêtit d'un vêtement blanc. Et c'est vraiment symbolique de sa vie d'avant, où, m'a-t-elle raconté, elle se considérait dans ses relations avec les garçons comme un objet, parce que c'est ce que la société véhicule. Hein. Et là, à travers le regard des garçons chrétiens, elle a découvert qu'en fait, elle n'était pas un objet de consommation, mais qu'elle était vraiment un sujet, une personne capable d'aimer, d'être aimée. Ça, c'est très beau. Et donc, elle a vraiment changé de vie. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'après avoir vécu une année en fraternité avec d'autres étudiants, elle est allée à Paris pour suivre ses études donc dans le journalisme. Et là, ça a été compliqué. Compliqué de vivre sa foi parce qu'elle connaissait personne.
Sortie du cocon.
Voilà, elle a essayé un peu chaque paroisse pour essayer de trouver son style. Elle a fini par trouver un groupe qui l'a beaucoup soutenue. Et après, là, elle s'est dit quelle est ma mission ? Et petit à petit, elle s'est aperçue qu'étant entourée de non-croyants, en fait, sa mission, c'était d'être un témoignage au milieu de ces non-croyants. Alors, qu'a-t-elle fait ? Elle n'est pas montée sur une caisse dans la rue pour annoncer le bon Dieu. Mais par exemple, elle a invité 10 personnes pour le déjeuner de Pâques. Et elle leur a dit, on va fêter Pâques ensemble. Et en préparant un bon repas, chacun avait un peu apporté quelque chose. Et donc, elle leur a expliqué ce que c'était pour elle, Pâques. Et elle ne s'est pas cachée. Et donc maintenant, sa mission, enfin, c'est ce qu'elle est en train de discerner, mais c'est vraiment d'être la présence, le signe que Dieu existe au milieu des non-croyants. Et ça, c'est très beau parce que c'est une sainteté non reconnue, évidemment, hein, qui le sait. Mais en fait, elle sème ses petites graines dans le cœur de tous ses amis. Et au moins, elle leur montre que le Seigneur existe et elle leur donne aussi, et ça, c'est vraiment pas négligeable, un autre visage de l'Église.
Ah oui.
Voilà, qui n'est pas celui que véhiculent les médias ordinaires.
Oui. Ce bel exemple de Zoé. Alors, c'est vrai qu'elle fait partie de ces 30 exemples de sainteté du quotidien qui sont dans votre livre. On devine les caractéristiques de la sainteté. On en a parlé en première partie de cette émission. La fidélité, la simplicité, la générosité, la discrétion. Vous nous avez dit aussi, Bénédicte de Saint-Germain, que ces 5 minuscules ne sont pas parfaits et ça nous rassure. Et si je comprends bien, ça veut dire que la sainteté, elle est à portée de tous. Vous nous disiez au tout début de cette émission qu'il n'y avait pas deux saintetés pareilles, il n'y a pas deux modèles, elle est vraiment propre à chacun. Et donc, chacun est appelé à cette sainteté.
Oui, chacun est appelé à cette sainteté, mais il ne sait pas immédiatement quelle sorte de saint il est appelé à devenir. Et vous savez, je dis ça parce que souvent on se dit, Seigneur, je te prie, dis-moi ce que tu veux que je fasse, etc. J'attends. Et en fait, ce n'est pas en attendant. La sainteté que Dieu veut pour nous, elle ne va pas nous être dévoilée d'un coup. ah, le Seigneur va dire, toi, je veux que tu sois comme ci, je veux que tu sois comme ça. Mais c'est en fait en agissant chaque jour que petit à petit, on va découvrir sa sainteté. Et c'est la même chose dans l'amour humain. C'est pas en disant je t'aime qu'on va aimer. C'est en agissant chaque jour, en posant des petits actes, qu'on va montrer à l'autre qu'on l'aime, qu'on va sortir de soi et qu'on va se donner de plus en plus à l'autre. La sainteté, c'est pareil. C'est en agissant, peut-être en s'engageant quelque part, ou alors en prenant une forme de prière, ou alors en tâchant d'accepter peu à peu ce qui nous arrive, que petit à petit va se découvrir la sainteté que Dieu veut pour nous, qui sera pas forcément la même tout au long de notre vie. On le voit bien, par exemple, les parents, quand ils ont des enfants petits, la façon dont ils doivent être saints auprès d'eux n'est pas la même que quand leurs enfants seront grands, auront des enfants eux-mêmes, etc. Vous voyez, ça
évolue,
ça
bouge aussi.
Ça évolue. Pareil, dans son travail, la façon dont on est saint, peut-être que selon les contextes, elle sera différente. Peut-être qu'au début, ça sera dans le service rendu humblement. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que là, j'ai un exemple. j'ai encore un autre exemple. Il m'est arrivé de travailler dans une entreprise. Et il y avait un de mes collègues, un jeune homme, peut-être 20 ans de moins que moi. Et un jour, j'ai servi le café à tout le monde. Voilà, et d'ailleurs, un de mes collègues m'avait dit, oh là là, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux m'apporter un café? Ben, moi, je lui apporte un café. Et le jeune, il m'a dit, mais tu te fais complètement avoir, c'est pas possible. Et alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais c'est pas, je le fais volontiers. Je lui rends service parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. C'est pas du tout.
Vous n'étiez pas esclave.
Voilà, oui, c'est ça. Et du coup, ça peut être, cette sainteté, elle peut être dans ce service rendu humblement, y compris en passant pour une poire. Et puis après, elle peut être aussi, selon le contexte dans lequel on travaille, dans l'annonce explicite du Seigneur, et veux-tu que venir au parcours Alpha avec moi ? Parcours Alpha, c'est un parcours d'initiation à la vie chrétienne. Il y a vraiment, vous voyez, selon les temps, selon les contextes, cette sainteté, elle évolue. Elle n'est pas donnée brute de fonderie d'un coup, d'un seul, par le Seigneur qui va vous dire, bon allez maintenant, toi Bénédicte, voilà ta fiche de poste, tu seras sainte en faisant tac, 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 et puis comme ça tu pourras arriver au ciel. C'est pas du tout comme ça.
Et ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des impasses dans les engagements, dans les actions que nous menons. Le Seigneur permet que nous nous trompions, par exemple, d'engagement. Et ça, ça ne veut pas dire que la porte de la sainteté est fermée.
Oui, il permet qu'on soit déchargé d'une responsabilité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous êtes dans l'équipe funéraire, le curé veut faire autrement, il vous décharge. Ben, ça ne veut pas dire que votre sainteté, elle est terminée. Elle est peut-être simplement dans l'acceptation de cette déception, dans la décision de ne pas cultiver le ressentiment, de ne pas colporter cela à tout le monde. Et c'est peut-être en faisant comme ça que vous trouverez votre place ailleurs. En fait, on n'a pas une place définie. Et c'est ça qui est beau. Et c'est qu'on met nos talents au service de quelque chose à un moment, et puis à un autre moment, ça sera au service d'autre chose. Jamais, c'est ce que vous dites, quand on tombe, c'est fichu. Et puis, on a toujours à apprendre de l'échec, ça c'est d'une manière générale, mais on a toujours une place ailleurs, et voilà, bien sûr.
Ouais. Heureusement. Une des conditions quand même de la sainteté, c'est la foi.
Oui, indispensable. Indispensable.
Et comment elle se matérialise cette fois ?
Eh bien, elle se matérialise justement dans des actes, dans des petits oui posés chaque jour, dans cette fidélité à Dieu, en décidant de mettre Dieu premier servi dans ma journée. Pas forcément en lui donnant 3 heures de prière, mais en se reconnectant à lui de temps en temps au cours de la journée. Et en vivant finalement notre vie de tous les jours avec lui. Ça, c'est la foi. Et la foi, c'est aussi dans l'obscurité, savoir que Dieu est là, même si franchement, mon examen, je l'ai raté, même si j'ai pas eu le logement que je voulais avoir, même si mes prières ne sont pas exaucées, je crois quand même que Dieu, dans ses échecs, dans ses solutions qui me paraissaient bonnes, en fait, je crois quand même que Dieu est là.
Et même si, comme vous le disiez quand vous parliez des grands saints, on n'a pas forcément une rencontre, une illumination en nous disant voilà, ça c'est le Seigneur. Tout le monde ne fait pas cette expérience de la présence quasi physique du Seigneur.
Bien sûr, et c'est par les actes dans ces cas-là qu'on peut montrer à Dieu qu'on l'aime. C'est tout à fait ça. Celui qui se lève à 7h du matin pour aller préparer la messe, c'est pas facile, hein, tous les jours. Et ben, c'est par son acte, c'est répété, qui va montrer au Seigneur qu'il l'aime. La mère de famille qui va faire ses déjeuners, son déjeuner, son dîner, y compris en préparant les lunchbox, parce qu'elle travaille elle-même, qui va faire ça tous les jours, elle peut aussi le vivre comme étant une manière d'être reliée au Seigneur et de lui offrir cet acte qui est quand même un peu ingrat.
Oui, oui, et puis tellement répétitif. C'est vrai que cette sainteté, on le voit en tout cas dans la vie des saints, ça ne passe pas en dehors de la souffrance, de la croix. Croix et foi sont liées. Parce que évidemment la croix, on la voudrait loin, on voudrait pas la porter. Malgré tout, on le voit dans la vie des saints, il y a toujours des épreuves. Comment accepter ces épreuves pour grandir justement dans la sainteté?
Alors, je voudrais quand même dire quelque chose qui m'a beaucoup libérée. C'est un prêtre qui nous a dit, qui nous a mis en garde à propos de la croix contre cette espèce de peur latente qu'il nous tombe quelque chose sur la tête.
Voyez. Parce qu'on aime le bon Dieu.
Oui, c'est ça. On se dit, le bon Dieu, oui, la joie, la croix, ok, bon. Donc, il va m'arriver un cancer, un accident, un de mes enfants va se planter, avec mon mari, on va se disputer, etc. Mais ça va arriver, le bon Dieu va me mettre à l'épreuve. Mais en fait, l'état dans lequel ça nous met, cette espèce de peur, eh bien, il n'est pas bon. Alors que le travail qu'on a à faire, c'est de s'abandonner au Seigneur pour que on reste en sa présence, quoi qu'il arrive. Et de fait, de toute façon, la croix, les épreuves, tout le monde en a dans sa vie, qu'on soit
chrétien ou pas chrétien.
Chrétien ou pas chrétien, de toute façon, on en a. Donc de toute façon, la vie, l'humanité passe par ces épreuves, par ces cassages de figure, etc. Mais ce qui est important, alors donc ça c'est la manière d'accueillir l'épreuve et de la vivre avec le Seigneur. Après, il y a aussi cette croix qui j'essaie d'être claire, mais qui consiste à accepter qu'on se casse sans arrêt la figure. Vous voyez, on essaye d'être bien. Et puis, voilà, on a été sympa avec le collègue. Et puis, non, mais franchement, il est tellement énervant que ça y est, c'est fichu. Et on pourrait se décourager, quoi. On va jamais y arriver. Mais ce qui compte, c'est pas tellement de tomber, c'est de se relever vite et de décider toujours de recevoir à nouveau la grâce du Seigneur pour pouvoir recommencer à être bon avec les autres. Et de fait, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Moi, j'avoue que je ne le fais pas, mais je ne fais pas assez. C'est se retourner et se dire, mais ce défaut, en fait, qui était si fort il y a quelques mois, en fait, petit à petit, en fait, il est moins fort. Le Seigneur, finalement, je me suis moins énervée contre le collègue. J'ai vraiment, en fait, le Seigneur m'a donné des grâces pour le supporter. Et c'est beau, en fait, de se dire ça. En fait, la sainteté, c'est pas à la force du poignet. C'est parce que le bon Dieu nous aide à chaque instant.
Oui, c'est ça. Et ça permet de se décentrer, finalement, de soi-même, de ne pas être tout le temps axé sur soi et sur son nombril en disant « zut, je n'ai pas fait ou j'ai fait », mais de laisser le Seigneur agir et de laisser le Seigneur éclairer finalement nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et de nous remettre debout.
Non mais vous avez tellement raison, la sainteté c'est pas la perfection. Mais nous, je sais pas ce qu'on a dans la tête depuis qu'on est né, c'est il faut être parfait, il faut, mais non mais c'est insupportable en fait.
C'est lourd à porter.
Oui oui, et il faut correspondre au modèle de soi qu'on s'est, à la statue qu'on s'est figurée là, donc je dois, encore une injonction et pour arriver à ce modèle, je vais devoir faire comme ça, je vais faire ceci, je vais faire... En fait, oui, c'est insupportable. Hein. Alors que, acceptons d'être fragile, de tomber et d'être des vases fêlés par lesquels la lumière du bon Dieu puisse passer.
Voilà, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup, Bénédicte de Saint-Germain. Je rappelle le titre de votre livre, Le Club des Saints Minuscules aux éditions du Cerf. Vous nous avez montré aujourd'hui que la sainteté n'est pas réservée aux grands. Elle est un chemin que chacun peut emprunter et qui, avec la grâce de Dieu, peut mener bien haut et on en verra les fruits au ciel. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Merci Isabelle.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.